Bonsoir. Les acteurs humanitaires présents à Goma alertent la communauté nationale et internationale sur les conditions de vie extrêmement précaires des familles déplacées et ont trouvé refuge dans différents quartiers de cette ville. Les responsables du programme multisectoriel d'aide humanitaire expliquent que tous les camps des déplacés érigés autour de Goma ont été abandonnés en raison de l'offensive des rebelles du M23 contre Goma. Désormais, ces milliers de déplacés et habitants de Goma n'ont accès ni à l'eau, ni à l'électricité et même à la nourriture. Une situation qui fait craindre une augmentation des décès dans les jours à venir, selon cette structure. Du côté du gouvernement congolais, on a noté mardi 28 janvier, plus de 500 000 nouveaux déplacés dans les provinces du nord et sud Kivu en ce mois de janvier à la suite de la guerre menée par le Rwanda et ses supplétifs. Comment résoudre cette problématique? C'est le thème de ce mercredi 29 janvier 2025. Participe au débat Dr. De Joseph Kaskakisingi. Voilà, il est coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national. Docteur Kakisingi, bonsoir. Docteur Kakisingi, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir madame.
Avec moi dans ce studio, Passion Bachombe Matavishi, il est coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Monsieur Bachombe, bonsoir.
Bonsoir aussi à tous les auditeurs de Radio Capi et de cette émission.
Maître Achille Kapanga, avocat, analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Maître Achille Kapanga, bonsoir.
Merci beaucoup madame, je vous salue. Je salue les auditeurs de notre radio, les co-débatteurs également.
Vous êtes des milliers à nous suivre à travers toute la République sur la fréquence FM. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net sur DSTV Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, les acteurs humanitaires présents à Goma alertent la communauté nationale et internationale sur les conditions de vie extrêmement précaires des familles déplacées et ont trouvé refuge dans différents quartiers de cette ville. Benjamin Mounegué, responsable du programme multisectoriel d'aide humanitaire, explique que des milliers de déplacés survivent grâce aux familles d'accueil, mais sans accès à l'eau ni à la nourriture. Une situation qui fait craindre une augmentation des décès dans les jours à venir. Benjamin Mounegué s'inquiète de cette crise humanitaire grandissante et appelle à une intervention urgente. On l'écoute au micro de Ronelly Timbolera.
C'est une ville qui a accueilli des milliers de déplacés qui étaient dans les cités de Kanyaruchinya, Bushagala 1, Bushagala Extension, Roussayo Extension. Nous, en son temps, quand nous travaillons dans chez notre partenaire, on gérait tous ces sites. Et c'est toute cette population aujourd'hui qui se retrouve dans les familles d'accueil à Goma, où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas à manger. Et donc, ça sera une deuxième guerre, c'est la guerre des famines. Donc, on va commencer à mourir ici comme des cancrela par manque de nourriture, par manque d'eau. Disons, d'entendre que l'eau, c'est la vie. Mais nous n'avons même pas de l'eau. Et si vous aviez remarqué, ça fait 3 ou 4 jours maintenant, la pluie aussi, il ne pleut presque pas pour recueillir même les eaux de pluie. Et les rares qui vont au niveau des lacs, parce que hier, c'est vrai, on a fait un tour au niveau des lacs, on a vu comment les enfants sont en train de se débrouiller pour chercher de l'eau. Nous avons aussi les risques d'enregistrer plusieurs cas de noyage au niveau des lacs à la recherche de l'eau. Et l'eau que nous sommes en train de récupérer au niveau des lacs, comprenez que c'est de l'eau qui n'est pas traitée.
Merci pour ce reportage. C'était là Benjamin Monégué au micro de Ronelli Tibonira, docteur de Joseph Kakisingi. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et des développements, une plateforme qui regroupe plus de 500 organisations non gouvernementales étendues sur tout le territoire congolais. La situation humanitaire très très préoccupante dans le Nord Kivu. Les humanitaires alertent. Vous qui êtes à Bukavu, au Sud Kivu, qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à la situation des déplacés dans la ville de Goma et même de la population de Goma aujourd'hui qui n'ont ni accès à l'eau ni à l'électricité, et il y a même manque de nourriture dans la ville.
Merci beaucoup, madame. Comme je l'ai dit, notre plateforme a des membres partout et nous avons plus de 100 organisations membres qui sont en compte actuellement et donc qui sont en train de monitorer la situation et nous avons parvenu des informations. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la situation est vraiment catastrophique, la situation humanitaire est vraiment préoccupante.
Comme mes collègues venaient de le dire, on vous suit difficilement, docteur de Joseph Kakisingi. Est-ce que vous pouvez vous déplacer pour voir si la qualité va s'améliorer ou encore si vous avez activé le mode main libre, enlevez-le et puis parlez normalement.
Hein. D'accord, j'essaie de changer.
Allez, alors, la ligne a coupé, on va essayer de le rappeler. Patient Bachombe Matabishi, vous êtes coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. On me signale qu'il est revenu. Docteur de Joseph, vous êtes là?
Oui, je suis là. J'espère que ça va mieux maintenant.
Oui, ça va mieux. On vous écoute.
Ah, je disais, nous sommes une grande plateforme avec des membres à Kinshasa qui nous mettent à jour continuellement. Et comme le collègue a dit, avec les problèmes d'eau et de courant, et nous savons que Goma, c'est aussi une ville qui développe souvent la choléra. Et avec tout ce qui est comme cadavre, qui n'est pas ramassé, il n'y a pas de morgue qui fonctionne parce qu'il n'y a pas d'électricité, on peut s'attendre vraiment à une catastrophe humanitaire grave avec des morts qui vont venir. Il faut aussi noter qu'avec 1000 personnes blessées dans les hôpitaux, la capacité chirurgicale est totalement dépassée. Et il y a besoin d'avoir vraiment de l'appui, des aides, des personnes, des chirurgiens qui viennent d'ailleurs, mais avec la situation, c'est vraiment difficile. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est très préoccupé parce qu'on n'a pas de solution en vue, étant donné que la sécurité n'est pas encore entrée. Il n'y a pas assez de possibilités de prépositionnement qui ont été faits. On peut dire que les humanitaires ont été pris de court. Alors c'est très difficile, c'est très difficile. Il faut vraiment un plaidoyer très fort pour qu'il y ait des couloirs humanitaires, pour qu'il y ait des possibilités d'avoir de l'appui, des gens qui viennent d'ailleurs pour appuyer les hôpitaux, pour apporter de l'aide. Et surtout, il faut absolument qu'on fasse l'adduction d'eau. Il faut que l'eau rentre, il faut que l'électricité rentre. Sinon, on va assister à une catastrophe terrible.
Alors, vous parlez de couloir humanitaire. Qui doit négocier pour qu'on ait ce couloir humanitaire? Est-ce les humanitaires? Est-ce la communauté internationale? Qui doit le faire? Est-ce le gouvernement de Kinshasa?
De toutes les façons, dans ce cas ici, il y a deux personnes qui doivent le faire, deux groupes de personnes en fait. Il y a les humanitaires eux-mêmes et la communauté internationale qui assiste en fait la communauté qui est à Goma. C'est une nécessité qu'on doit voir parce que les civils ne font pas, sont des victimes. On doit pouvoir leur donner la possibilité d'être aidés, la possibilité de sortir quand ils peuvent et la possibilité de recevoir les médicaments. On sait déjà que ça faisait un bon moment que Goma était coupé et il était approvisionné par Bukavu et l'aéroport. Maintenant, l'aéroport ne fonctionne pas, les ports ne fonctionnent pas. Comment on va approvisionner les hôpitaux en médicaments alors qu'il y a une surfréquentation des hôpitaux? On peut s'imaginer que les médicaments vont manquer. Déjà, le personnel est dépassé. Il y a des cadavres qui jonchent la terre avec la décomposition, la saison des pluies. Donc, il faut s'attendre à
des problèmes énormes. La résurgence des épidémies.
Voilà, il faut s'attendre à des possibilités d'épidémies. qui sont liés par la, la dégradation des corps à même le sol. J'imagine déjà que, avec ce qui se passe, la capacité de la Croix-Rouge à ramasser tous ces corps, à les enterrer, est totalement dépassée. Et donc, il faut absolument qu'on ait l'accès pour les humanitaires pour pouvoir intervenir, pouvoir aider et réduire les risques. Mais le risque est déjà très élevé.
Patient Bachombe, coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Vous avez suivi, monsieur le docteur plutôt Joseph Kakisingi et même Benjamin Munege qui est intervenu dans cette émission qui parle d'une situation humanitaire catastrophique dans la ville de Goma, pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Tous les déplacés qui étaient dans les camps autour de la ville de Goma, abandonnés à leur triste sort, certains sont en rejoint des familles d'accueil dans la ville de Goma. Mais là encore, c'est toujours compliqué. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord saluer mes co-débatteurs, Dr Kakisingi, que je connais personnellement, mais également M. Kapanga. Je voudrais dire que la situation est très pire, et pire, catastrophique actuellement. Nous sommes en contact également avec tous nos collègues et même quelques humanitaires au niveau du Nord Kivu, particulièrement à Goma. Et aller plus loin jusqu'à une partie du sud Kivu, Minova, jusqu'à un peu plus bas. Donc la situation est, à Nyabibwe en descendant, la situation est catastrophique. Et donc on a peint le tableau et on a montré que près de 5-6 jours, les gens n'ont pas mangé, n'ont pas accès à des commerces qui ouvrent. Les gens n'ont pas accès à l'eau, les gens n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, la situation est telle qu'elle est, mais il faut aller plus loin. Et à Goma, maintenant, on ne peut même pas nous suivre. Vous savez pourquoi? Parce que on a coupé tout le réseau et donc les gens sont connectés aux radios du Rwanda. Et ils m'ont dit qu'ils ne connaissent rien du reste de la République. Et donc, ils ne sont pas informés. Et ils ne sont pas connectés à l'Internet. Donc, même les moyens d'information, ils ne peuvent pas avoir. Donc, la situation est celle-là.
Vous allez vous rappeler,
on a isolé carrément la ville. Vous le savez très bien, c'est une ville de près de 2 millions de personnes, mais également, il y avait déjà plus d'un million de déplacés. Alors, imaginez, sans eau, sans électricité, quelle est la situation maintenant au niveau des Goma. Et donc, la situation est peinte comme ça, mais on ne va pas en rester là. Il faut vraiment, urgemment, une assistance humanitaire. Parce que aujourd'hui, nous pensons qu'il faut établir des couloirs humanitaires sécurisés pour permettre, n'est-ce pas, l'acheminement rapide de l'aide aux populations qui sont en détresse. Tous ces camps de déplacés, une dizaine de camps de déplacés, ils ont quitté ces camps de déplacés, ils sont dans les maisons d'autres, de particuliers. Et là, la situation est vraiment intenable, intenable. Et nous pensons qu'il faut vraiment des fournitures essentielles, n'est-ce pas, en vivres, pour distribuer
comment
les vivres.
Comment acheminer ces vivres? Comment acheminer ces fournitures?
Écoutez,
ces médicaments?
Je pense que, urgemment, nous devons tout faire, et la communauté internationale, vous savez, madame, la priorité aujourd'hui, maintenant à Goma, maintenant à Minova et au sud Kivu, c'est de sauver des vies des Congolais. C'est ça la priorité. Et nous, en tant que société civile, nous avons compris ce qui est en train de se passer et nous avons mis en place un comité de crise sur la situation sécuritaire et humanitaire. Parce que nous devons mener un plaidoyer, nous devons faire le monitoring, nous essayons de faire le monitoring et mener un plaidoyer et vraiment à une dimension de diplomatie citoyenne de la société civile. Parce que nous pensons qu'à cette heure, il faut qu'il y ait un pont aérien humanitaire. Nous demandons à toutes les organisations humanitaires internationales de nous aider aujourd'hui pour que nos communautés à Goma, nos communautés un peu partout dans les entités occupées et même au sud Kivu puissent bénéficier, n'est-ce pas, de cette aide humanitaire.
Est-ce que ça sera, il sera facile de faire fléchir le M23 appuyé par le Rwanda pour qu'il y ait ce couloir humanitaire?
Mais écoutez,
pensez-vous que ça sera facile?
Mais oui, c'est faisable parce que ils peuvent passer n'importe où pour atterrir à Goma. Et que ce soit à partir des Rwanda, que ce soit à partir de nos communautés, on ne peut pas sacrifier ces millions de Congolais. Ce sont des vies humaines. On ne peut pas les sacrifier. Qui d'entre nous peut passer 7 jours sans manger, sans boire? Imaginez-vous la situation telle qu'elle est. Et déjà, nous apprenons que dans les maisons, il y a des morts. Il y a des morts par manque de nourriture. Il y a des morts. Même les hôpitaux aujourd'hui à Goma sont saturés et il n'y a pas de personnel. Les gens ne peuvent pas circuler librement. Il n'y a pas approvisionnement en médicaments, ainsi de suite. Des soins de première nécessité. Donc vraiment, le monde ne peut pas nous abandonner comme ça. J'en profite du micro de la Radio Capi qui est suivie à travers le monde entier. Et nous, en tant que société civile, nous demandons à tous les humanistes à travers le monde de montrer qu'il est encore possible de sauver l'espèce humaine. Parce que ce que vit la population de Goma, ce que vit la population, n'est-ce pas, même au sud Kivu, une partie Minova, ainsi de suite, et dans toutes les autres entités, je pense que aujourd'hui, il faut montrer que, il faut vraiment montrer que les paroles peuvent approcher les actes.
Maître Achille Kepanga, avocat et analyste indépendant, vous êtes expert dans les domaines de la sécurité. Maître Achille Kepanga, vous avez suivi ce tableau sombre de la situation humanitaire à Goma que nous a brossé les intervenants dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez comme information venant de Goma sur l'aspect sécuritaire?
Madame, c'est que la grande question à se poser est que pourquoi abandonner ces innocents dans cette situation calamiteuse et malheureuse? Parce que tous ces gens-là qui sont des soutiens aujourd'hui à Goma sont des innocents. Politiques sont des agriculteurs, des commerçants, un peuple innocent, mais qui est soumis à une situation de trauma. Vraiment, ça fait un peu très mal. Nous avons des informations par rapport à tout ce qui se passe. Ça ne commence pas aujourd'hui. Les gens ont quitté Masisi, les gens ont quitté Turu, les gens ont quitté presque Walikale. Ils sont dans des cas à Goma. Là, les bombes tombaient, il y a même les innocents. Donc, la situation n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant le pire qui arrive, puisque depuis tout ce temps, les gens souffraient, les gens mouraient, et il n'y avait aucune suite favorable à leur doléance. Maintenant, aujourd'hui, ils sont assistés. Les gens ne savent pas comment les aider. Imaginez-vous maintenant comment va vivre la population. Donc, brièvement, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais seulement démontrer à la face du monde que le peuple de Goma qui vit les calvaires aujourd'hui est innocent. Le peuple de Masisi, de Minova, de partout là-bas, c'est un peuple innocent. Il faut vraiment qu'on fasse le plus vite possible pour les ramener, ne fût-ce que la vie.
Qui doit faire le plus vite possible, Maître Kepanga?
Nous avons les organisations internationales. Il ne faut pas que les gens puissent faillir à leur mission. L'EAC est là, l'ONU est là, la MONUSCO est là. Toutes ces organisations internationales sont là sur place. Elles sont en train de voir qu'il y a des belligérants. Pourquoi ne pas se mettre au milieu et dire on ouvre un couloir humanitaire, on sait d'abord la population? C'est ça la grande question. Parce que la MONUSCO est encore là, différentes organisations internationales sont là, elles sont en train de voir que la situation pourrir. On sait que Kinshasa n'a plus de main mise sur Goma. On sait que peut-être ce sont les rebelles qui sont en train d'imposer quelque chose qui sont imposés là-bas. Mais le peuple là, pourquoi ne pas se mettre au milieu pour dire que non, à dépit de tout ce qui est comme guerre, mais ces innocents-là, on doit d'abord
protéger leur vie, protéger leur santé. C'est ça le cri de l'arme aujourd'hui. Parce que Kinshasa n'a plus de même mise à Goma. Il faut maintenant que la communauté internationale fasse quelque chose. Aujourd'hui, les hôpitaux sont débordés. Vous savez que Goma est coupée de presque toutes les voies de sortie. De l'autre côté, c'est Kigali. Il y a les lacs, il y a les volcans, il y a... Donc, vraiment, Goma est bloquée, Goma est encerclée. Voilà pourquoi je pense qu'en dehors de la guerre qui vient d'être menée, on doit mettre l'esprit humanisme au premier plan. On doit se dire que même si nous gagnons Goma, on ne doit pas quand même gagner des cadavres. On doit gagner des êtres humains. On dit qu'on combat pour la paix de la population, pour que la population soit en paix. Mais vous combattez pour quelqu'un qui vient de mourir. Vous allez rester avec qui à Goma, malheureusement. Moi, j'ai cet écrit d'alarme, écrit de détresse, que je ne partage avec les autorités qui nous suivent à l'instant. Qu'ils comprennent que non, à dépit de tout ce qu'on peut faire comme action politique ou ceci, mais les innocents là ont droit à la vie. Tout le monde n'est pas politicien, tout le monde n'est pas concerné par la guerre. La guerre concerne certaines personnes. L'ONU a identifié, qui sont bien identifiables, mais la population est innocente. Donc, à l'instant, il faut qu'on d'abord qu'on permette que les vols humanitaires atterrissent à Goma, c'est parmi les urgences. On ouvre un couloir, même si ce sera à partir de Kigali. On sait que ça peut entrer même par le Rwanda pour aider la population. Et c'est ça l'urgence aujourd'hui. Donc, si on peut ouvrir d'abord l'aéroport pour les vols humanitaires, on permet que ça se passe ainsi. On prend aussi, peut-être à partir de Kigali, on peut faire entrer quelque chose. Même à partir de Bukavu, ça peut toujours venir. Parce que ce qui est humanitaire n'est pas concerné par la guerre.
Vous êtes très, très nombreux internautes à nous suivre en direct sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci à Clément Mwanza Mandé qui nous suit depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Julien Kabea depuis Lubumbashi. Nos cœurs saignent depuis lundi, on ne dort plus. Qu'avons-nous fait au monde pour mériter cette souffrance? Merci de nous suivre depuis Ouagadougou. Larissa Ouedraogo, merci d'être scotché sur Radio Capi. Merci à Viamba Thierry qui nous suit depuis Oicha, dans la en RDC, dans la province du Nord Kivu. Innocent Chiruza, vous êtes au sud Kivu, à Bukavu précisément, sur l'avenue Fizi. On va ouvrir notre standard pour donner la parole à ces Congolaises et Congolais qui veulent débattre ou donner leurs avis sur le sujet de ce soir. Direction, on va se rendre à Béni, oui, à Béni, pour écouter cet auditeur.
Maître Fabrice Ambili, depuis la ville de Béni, au Nord Kivu. La situation humanitaire à Goma exige une réponse urgente. Le gouvernement doit mobiliser des moyens logistiques pour acheminer l'eau, la nourriture et les soins médicaux déplacés en collaboration avec les ONG et la MONUSCO. Une pression diplomatique accrue doit être exercée sur le Rwanda pour saisir son soutien au M23 tout en renforçant les capacités des FARDC pour sécuriser les zones de refuge. L'État congolais doit également réactiver les camps de déplacés dans les zones sécurisées et garantir leur protection. Enfin, à long terme, une solution durable passe par des sanctions internationales contre les acteurs impliqués dans la déstabilisation de l'Est de la RDC.
Docteur De Joseph, comment, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de cet auditeur de Béni?
Madame, c'est que je voudrais d'abord revenir sur une chose.
Allez-y.
Oui, la première chose, que c'est qu'on doit respecter les droits internationaux humanitaires. C'est-à-dire, les personnes ont droit à une assistance, quelles que soient les conditions. Et la vie des civils doit être protégée, parce qu'eux, ils ne font pas partie au conflit. Et cela étant, donc, toute voie d'approvisionnement doit être favorisée. Et on doit faire en sorte que ceux qui sont à Goma aient accès à la nourriture, aux médicaments, à l'eau potable, surtout. Je sais qu'en ce qui concerne l'eau, il y a les membres de Conafod essaient depuis aujourd'hui de faire la chloration de l'eau, parce que les gens puissent de l'eau dans le lac, mais ils n'ont pas assez de produits de chlore pour aider, mais il est une grande nécessité d'assurer au moins l'accès à l'eau potable à la population. Deuxième chose, on doit aller au-delà. On ne doit pas rester à la crise de Goma. Il y a des gens qui se déplacent, qui viennent vers Bukavu. Il y a d'autres, probablement, qui sont partis vers le Rwanda ou d'autres sites. Il faut qu'on anticipe, il faut qu'on prépare des sites d'accueil où au moins ceux qui se déplacent peuvent avoir accès à la nourriture, à l'eau, à un logement, et même provisoire. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir maintenant. Et puis comme on dit, il faut anticiper la crise humanitaire. Donc il faut faire en sorte que cette crise ne s'étende pas. Il faut créer des zones sécurisées où on sait que les gens peuvent fuir et peuvent aller se réfugier. Et
alors, il faut absolument
que les belligérants comprennent que...
Docteur de Joseph, qui doit créer tout cela? On sait que Goma...
D'abord, deux choses.
Oui, allez-y.
La première chose, le gouvernement doit se rassurer que la crise ne s'étende pas et créer des zones de sécurité où les gens peuvent venir, ceux qui fuient, ils peuvent venir se mettre et les humanitaires peuvent aménager ces sites-là pour pouvoir apporter de l'aide. De l'autre côté, les belligérants qui sont dans les zones occupées doivent aussi garantir l'accès à l'aide à ceux qui sont dans leur zone, parce que c'est de leur responsabilité aussi. Quand on parle de droit humanitaire international, ça concerne à la fois le gouvernement, à la fois les rebelles, à la fois toutes les forces qui sont en présence. Donc il y a une responsabilité de tout le monde pour cela. Et donc c'est vraiment, il faut insister là-dessus. Il faut respecter les droits humanitaires, il faut respecter la vie des civils. Les civils ne doivent pas être sujets à des menaces, à des tueries, à des assassinats. Ils doivent être protégés et on doit leur donner l'accès à l'aide humanitaire, aux médicaments, à l'eau et aux soins médicaux. C'est crucial, c'est vraiment obligatoire. Parce qu'on ne peut pas imaginer que l'être humain travaille pour la destruction de la vie. Ou prive un autre être humain à l'accès à la nourriture, à l'accès aux soins, à l'accès à l'aide. C'est quelque chose qui est inacceptable. Et on devait donc insister là-dessus, et la communauté internationale devait prendre cet aspect-là comme une condition sine qua non à imposer à toutes les parties.
C'est Raphaël Chavala qui nous suit en direct sur la page Facebook de Radio Capi depuis Fungurume. Dommage pour nos frères et sœurs qui périssent dans leur propre pays à cause des atrocités injustes que le Rwanda cause dans un pays souverain. Pasteur Justin Matadi Matondo, à mon avis, nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. N'attendons rien de la communauté international. Très brièvement, Passion, Bissombe, qu'est-ce que vous dites, hein, par exemple, de l'avis du pasteur qui estime qu'il ne faut rien attendre de la communauté internationale, nous devons nous prendre en charge nous-mêmes.
Écoutez, nous faisons partie de la communauté internationale. La RDC fait partie de la communauté internationale. Donc, je pense que on a cette responsabilité de solidarité internationale aujourd'hui, pendant que la situation est au péril pour les populations civiles en RDC. Et tout à l'heure, mes co-débatteurs ont évoqué la question du droit international humanitaire. Et je pense que les lois existent pour être appliquées. Et si on ne peut pas les appliquer, à quoi servent ces lois, voyez-vous? Donc, au niveau international, je pense qu'on ne peut pas prendre tout un peuple en otage et les exposer à la mort comme ça, voyez-vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale et les organisations humanitaires doivent mobiliser un financement humanitaire important, urgent. Et certains de nos collègues pensent que aujourd'hui, il nous faut minimum 150 à 200 millions de dollars urgemment pour venir, n'est-ce pas, au secours de nos communautés, de notre population, ne fût-ce qu'à Goma. Mais écoutez, madame, il n'y a pas que Goma. Aujourd'hui, la situation au niveau des Calais est pire. Même à Calais Centre, où les gens ont quitté Minova, les gens qui ont fui Niabibwe, Numbi, et ainsi de suite, ils sont là-bas à plus de 700 000 personnes. Parce qu'ils ont pu rencontrer les autres déplacés depuis janvier 2014 ou février 2024. Et d'autres qui sont arrivés, la dernière vague est énorme, énorme. Et donc, la situation est intenable. Et donc, nous pensons et c'est ce que nous devons obtenir. Et je pense que les organisations régionales et humanitaires doivent obtenir un cessez-le-feu temporaire. il nous faut un cessez-le-feu temporaire humanitaire pour pouvoir acheminer toute cette aide. Et je pense que là, le gouvernement congolais a aussi un rôle à jouer. A aussi un rôle à jouer sur le plan, n'est-ce pas, humanitaire. Et on peut le faire en complicité avec les humanitaires. Alors, on peut utiliser même le lac Kivu pour faire acheminer à partir de Bukavu, à partir de Bukavu, les médicaments.
Le trafic voilà. Est suspendu, hein, vous avez suivi là.
Oui, c'est suspendu,
le communiqué du gouverneur.
Mais si tout le monde se met d'accord que pour sauver les vies humaines, on peut d'abord passer par le lac, on peut passer même, on peut atterrir à Goma ou passer par Kigali jusqu'à Gisenyi pour arriver à Goma, juste pour sauver des vies humaines. Je pense que ces populations, comme l'a si bien dit mon prédécesseur, la population ne fait pas partie au conflit. Donc la population, et nous sommes là pour plaider pour la population. Et je pense que toutes les nations du monde aujourd'hui doivent regarder cette question avec beaucoup d'acuité.
On va écouter cet autre auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. C'était prévisible qu'un flux important des déplacés soit enregistré face aux atrocités commises par les rebelles M23 soutenus par les Rwandais dans le territoire congolais. Reste à comprendre quel plan d'urgence humanitaire mis en place par le gouvernement congolais pour faire face à ces fléaux aux conséquences incalculables. Quant à moi, je pense que pour résoudre cette crise humanitaire, il est urgent de renforcer l'accès à l'aide humanitaire en augmentant l'approvisionnement en nourriture, eau et soins médicaux essentiels, tout en garantissant la sécurité des zones affectées. La communauté internationale, pour sa part, devrait intensifier son soutien en fournissant des ressources et en facilitant les corridors humanitaires pour atteindre les populations vulnérables au regard de la gravité de la situation. Merci.
Brièvement, hein, Monsieur Patient Bachombé, sur la proposition de cet auditeur, en quelques lignes.
Ben écoute, je pense qu'il n'a pas tort, hein, parce que tout le monde se pose la question pourquoi les puissances occidentales ne peuvent pas faire pression au Rwanda et même au M23 pour les obliger, ne fût-ce qu'à respecter la question humanitaire, hein, pour nos populations. Je pense que il existe les droits de la guerre, ça va. Donc je crois que
mais je crois que la communauté internationale a martelé là-dessus, hein, lors du conseil.
Oui,
de la
maintenant il ne faut pas qu'ils agissent en retard, voyez-vous. S'ils agissent alors que nous commençons à compter des milliers de personnes mortes, ça sera en retard, voyez-vous. Donc il y a quelque chose qui peut être fait dans l'immédiat, voyez-vous. Depuis qu'on a parlé de ça, la première réunion du Conseil de sécurité, ça fait déjà 4 jours. Cinquième jour aujourd'hui, rien n'est fait. Mais dans l'entretemps, ça fait 5 jours que les gens n'ont pas mangé, 5 jours que les malades dans les hôpitaux ne sont pas assistés. Mais on est où là, voyez-vous. Donc nous pensons que vraiment, il faut faire quelque chose.
On va aller à Bukavu cette fois-ci pour prendre ces auditeurs, plutôt Lualaba, voilà. On me signale que c'est plutôt un auditeur qui est au Lualaba qui appelle. On va le prendre, puis on revient dans ce studio pour la suite de l'émission.
Jano Louembwe Kitenge, depuis le Lualaba à Kolwezi. Comme je l'ai dit, notre gouvernement est déjà dépassé de la guerre imposée par le Rwanda et tous. Nous savons qu'il ne pourra rien contre nos frères et sœurs victimes innocentes de cette guerre. Dans ce cas, nous nous sentons obligés de tourner toujours vers la communauté internationale que nous connaissons d'un jeu d'hypocrisie face à cette guerre dont ils sont complices pour demander de l'aide en faveur de nos frères et sœurs de l'Est en imposant un couloir humanitaire pour la survie des victimes innocentes. Vivre dans un pays dépendant en tout et pour tout, comme le nôtre, et surtout en cette période de guerre, c'est l'enfer sur terre. Triste réalité.
Maître Achille.
Oui, madame. Je pense que...
Maître Achille.
Ce qu'il dit là,
on vous suit difficilement, Maître Achille Kapanga. Allô?
Allô?
On a des problèmes. On a des problèmes avec votre ligne téléphonique. Est-ce que vous pouvez bouger? Allô?
Là, je vous capte, moi. Ça ne tient pas.
Allez-y.
Oui, allô, madame.
Oui, ça va, ça va. Ça va quand même un peu mieux. Allez-y.
Ok. Je disais que, en dehors des aspects que vous avez soulignés, il faut se poser la question, qui contrôle Goma aujourd'hui? Puisqu'il y a maintenant des cas de compte. Personne ne peut sortir. Ça aggrave encore la situation. Donc, tout le monde a peur. En dehors des situations dramatiques et dangereuses, personne ne peut sortir. Les règlements des comptes, tout le monde est suspect. Tout le monde aujourd'hui à Goma est suspect. Les gouvernements suspectent les rebelles suspectent le gouvernement. C'est une énorme confusion qui est là. Et les conséquences de ces confusions-là sont lesquelles? Personne ne peut sortir. Si vous osez sortir, vous êtes taxé de telle ou telle autre tendance, on peut vous tuer. Donc, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est qu'on doit identifier les ONG internationales qui sont encore à Goma. Est-ce que la police est encore là? Quelle est l'ONG qui est encore à Goma? C'est cette ONG-là qui doit jouer un grand rôle, parler aux belligérants et parler au gouvernement pour qu'on puisse créer un couloir. Au moins, lui sera neutre. Il ne descend de la tendance du gouvernement ni de la tendance des belligérants. Si au moins ces ONG-là, qui sont encore crédibles, le MONUSCO et le consortium, elles peuvent être encore à Goma, c'est l'occasion maintenant pour elles de voir comment parler aux deux parties le plus urgentement possible et au besoin créer le couloir, sinon Goma sera invivable. Comme je l'ai dit tantôt, depuis tout ce temps, depuis que la guerre a commencé, les gens ont fui, les gens étaient dans des camps. Donc la situation n'a pas commencé à s'empirer aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est maintenant, c'est devenu très très compliqué et très complexe. Quelles étaient les dispositions prises bien avant? Même si on a vu certains cas de pillage qu'on peut condamner, certaines ONG avaient des stocks de nourriture dans leurs dépôts, mais on a vu ces stocks-là être pillés. Ce qui fait concrètement, quel est le plan que la MONUSCO ou bien l'EAC ou autre organisation internationale propose au gouvernement et aux rebelles pour que le peuple qui est innocent soit protégé? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Sinon, le gouvernement qui ne contrôle pas Goma aujourd'hui ne saura pas intervenir. Les rebelles qui sont là sont encore en train de chercher à s'installer.
En tout cas, votre ligne pose
l'administration problème. L'administration qui est installée, tout est encore désordre. Donc, il faut qu'il y ait des organisations internationales neutres qui vont jouer le rôle, au moins, d'intermédiaire pour que le peuple soit protégé. Si on ne fait pas ça, tout le monde a peur. Chacun a peur de l'autre. Personne ne saura faire confiance à l'autre et ce sera un danger. Donc, c'est l'occasion pour la communauté internationale de montrer qu'il aime le Congo, même si un de ses amis a indiqué qu'il avait complicité ou bien hypocrisie, mais qu'à cela ne tienne, nous, on a besoin de protéger les fils humains à Goma. Et cela ne peut se faire qu'avec les organisations internationales qui sont nettes et qui veulent protéger la vie des innocents à Goma.
Emery Baloukou, depuis la ville de Goma au Nord Kivu, la population est fatiguée des discours de la communauté internationale car la crise ne fait que s'amplifier. Nous demandons aux Congolais hors Goma de donner de leur sang pour sauver les vies des FARDC victimes et des blessés des guerres dans les hôpitaux à Goma. Ornicar Banza pense qu'il s'y est d'interpeller la conscience du mouvement M23FC, du gouvernement congolais, car le point commun de tous doit être la population congolaise. En dépit de leur opposition, il serait important qu'on ouvre des couloirs humanitaires et assurer leur sécurité en garantissant leurs bonnes conditions de travail. Alors tout le monde revient sur les couloirs. Il faut ouvrir des couloirs humanitaires pour permettre aux humanitaires de faire normalement leur travail, d'appuyer, d'aider la population de Goma qui vit aujourd'hui sans eau, sans électricité, sans nourriture, avec plus d'un million de déplacés des guerres dans la ville de Goma. C'est vraiment catastrophique. Alors, on est tous d'accord qu'il faut ce couloir, mais est-ce que, je repose encore la question, ce sera votre conclusion de Dr Joseph Kakisingi, est-ce que ce sera facile de faire fléchir ceux qui occupent Goma aujourd'hui?
Madame, nous avons vécu la même situation de Goma, je crois, en 2012, si je m'abuse. L'implication de la communauté internationale en moins d'une 24 heures Goma était une ville hors théâtre de cruautés et de guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, diplomatiquement, si la communauté internationale s'implique, il est possible de mettre fin à cette guerre et de retirer tous les belligérants en dehors de cette ville. Donc il faut noter qu'aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de personnes, plus de 2 millions de vies qui sont en danger. Et donc il faut faire quelque chose pour sauver ces villes-là. Sauver ces villes, ce n'est pas une option, mais c'est un devoir pour la communauté internationale. Parce que si la RDC fait partie de la communauté internationale, donc la RDC a droit d'être assistée par la communauté internationale et les civils ont droit d'être protégés. Nous avons suivi la réunion du Conseil de sécurité hier. Je pense que l'essentiel a été dit. Et les puissants de ce monde, qui sont par ailleurs parfois impliqués dans toutes ces choses-là, où la population devient victime, ils savent qu'ils peuvent mettre fin à cette situation. Ce n'est pas, s'il vous plaît, une option, mais c'est un devoir. Merci.
Merci, docteur. Merci à Jean-Noël Saté qui nous suit sur la page Facebook de Dialogue entre Congolais. Passion Bachombe, nous sommes à la fin de notre émission. Votre conclusion en urgence, qu'est-ce qu'il faut faire?
Madame, en urgence, je pense qu'il faut immédiatement ouvrir ces couloirs humanitaires. Ça peut être un pont aérien et je pense que c'est faisable aujourd'hui. Et pour ce que le gouvernement a présenté lors de la deuxième réunion du Conseil de sécurité sur la situation de la RDC, je crois que nous avons suivi la ministre, n'est-ce pas, des Affaires étrangères, insister sur, n'est-ce pas, l'intervention humanitaire, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant, on doit passer à la vitesse pour que ça ne soit pas fait en retard. Il faut vraiment urgemment le faire. Nous avons vu pendant la Covid comment pour acheminer les vaccins, ça n'a pas traîné, ça n'a même pas fait 4 jours. On a vu un pont humanitaire fait sur Kinshasa, sur Goma, vous vous rappelez. Et j'étais dans la délégation même de ceux qui ont reçu cette grande délégation, ceux qui sont venus de l'Union européenne. Donc maintenant que c'est encore pire, je crois qu'il faut, il faut vraiment agir. Et nous, comme j'ai à le dire, en tant que société civile, nous nous sommes organisés dans un comité de crise et nous allons continuer à agir dans une diplomatie de la société civile. Déjà, nous sommes en contact, nous sommes en train d'écrire aux organisations que nous pensons agir dans l'urgence. Nous sommes en train de tenir de réunions et des échanges pour voir comment nos collègues, nos compatriotes de Goma, de Minova, ainsi de suite, peuvent bénéficier de cette aide humanitaire. Et nous pensons que même les Congolais doivent contribuer. Il ne faut pas attendre tout simplement qu'il y ait des étrangers qui les font. Même ici, à partir d'ici à Kinshasa, nous pensons que nous pouvons contribuer et donner aux humanitaires crédibles pour pouvoir amener, n'est-ce pas, les moyens au niveau des Goma, ainsi de suite. Et donc, il nous faut un fonds pour la paix en RDC, un fonds pour la paix, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, un fonds pour la paix en République démocratique du Congo et qui va toucher aussi aux aspects humanitaires.
Maître Achille Kapanga, avocat, analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité, votre conclusion?
Moi, je voulais dire ceci, le peuple est innocent, il ne fait pas partie des belligérants. Je demande aux évêques, je sais que nous avons les clergés catholiques qui sont là, les pasteurs, qu'ils s'organisent le plus vite possible afin d'aller rencontrer les gens qui dirigent Goma et les communautés internationales. Je pense que les évêques peuvent être facilement écoutés. Si Monseigneur l'évêque de Goma se met debout, il appelle certains pasteurs et qu'à leur tour, ils prennent l'initiative de rencontrer Goma aujourd'hui, je pense que ça peut être déjà l'objet d'une loi de sortie. Comme ça, à travers eux, on peut utiliser leur qualité, leur personnalité pour voir comment trouver des solutions. Elles sont neutres, ils sont politiques. Ça, c'est de deux. Et qu'on sache très bien, quand on dit qu'on vient libérer un divin, on veut amener la paix. On ne peut pas amener la paix aux cadavres, on ne peut pas amener la paix aux gens qui meurent, non. C'est le visimène. Vous allez diriger qui demain, même si vous récupérez Goma. Vous ne pouvez pas diriger les cadavres. Mettons à la place de ces innocents qui n'ont rien fait, qui ne sont pas partie prenante dans ce conflit. Ça peut faire quelque chose. Donc mon message est clair. Les évêques, soyez debout.
organisez-vous le plus vite possible, allez parler aux gens qui dirigent Goma, qu'on puisse permettre à la population de respirer, la population victime innocente. C'est ça ma conclusion, madame.
Merci, Maître Achille Kiapanga, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Clément Chimanga et Hervé Voka qui étaient derrière la caméra. Mimi Kindoua, mise en onde cette émission. Guy Maté et Freddy Bikumbi l'ont réalisé. Martha Sebouchangwe l'a supervisé. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Restez branchés sous la fréquence de la paix.